Bien, chers amis, nous voici pour une nouvelle étape dans l'Évangile selon Jean. Nous étions arrêtés la fois dernière sur le récit de résurrection de Lazare au chapitre 11. Nous allons faire un saut par-dessus quelques épisodes intéressants que je vous situe juste pour que vous ayez bien la progression de l'Évangile selon Jean en tête. Donc après la résurrection de Lazare, il y a le Sanhédrin qui décide de faire mourir Jésus. Après ce qu'ils ont vu, ils trouvent matière à pouvoir l'accuser et à le faire mourir. Ensuite, dans l'Évangile selon Jean, on a la fameuse onction à Béthanie. Donc c'est lorsque le parfum est répandu, un parfum d'un coût exorbitant dont on se demande s'il n'aurait pas mieux valu le consacrer aux pauvres. Et chez Jean, il y a aussi l'allusion au fait que on utilise cela finalement un peu comme prémisse du rituel d'embaumement. Il y a cette idée selon laquelle on a là déjà la geste des femmes qui vont aller au tombeau. Ensuite, Jésus entre à Jérusalem, donc c'est l'équivalent de rameau. Et puis, très rapidement, on arrive au dernier repas de Jésus. Et alors, ce qui est assez paradoxal dans l'Évangile selon Jean, c'est qu'on n'a pas le récit d'institution de la scène. C'est le seul évangile où Jésus ne dise pas « Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang ». En revanche, on a l'ensemble des dialogues supposés de ce dernier repas. C'est-à-dire que là où les autres évangiles ne parlent que de l'institution de la scène, l'évangile de Jean parle de tout le reste. Ce qui, dans une certaine mesure, est presque plus intéressant. Mais cela commence d'abord par le lavement des pieds, qui ne figure que chez Jean. Lavement des pieds qui présente un double intérêt. D'abord, c'est éventuellement le troisième sacrement que l'on pourrait avoir, puisqu'il y a, en quelque sorte, l'ordre de Jésus de faire de même, donc de reproduire ce geste. Éventuellement, ça pourrait être le troisième sacrement. Et le deuxième intérêt de ce texte, c'est que là, Jésus pose clairement quel est l'esprit de toute la fin de l'évangile de Jean, c'est l'esprit de service. Jésus se met aux pieds de ses disciples. Il leur lave les pieds comme on le ferait pour un hôte de Marc qui arrive. Et donc Jésus prend la position de serviteur et il dira ceci qui va être repris d'ailleurs dans le passage d'aujourd'hui. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et alors on pourrait se dire, Jésus qui se met aux pieds de ses serviteurs montre que finalement il est modeste au point de se faire plus bas que le disciple. Mais non, il dit que la vraie humilité, contrairement à la fausse modestie, la vraie humilité, c'est de savoir quelle est sa vraie valeur, sa valeur intrinsèque, et pour autant de conserver un esprit de service envers l'autre. Donc il ne s'agit pas de faire comme si on ne valait rien, de façon à ce que l'autre nous dise « Messi, tu es magnifique », etc. Ça serait de la fausse modestie, pour attirer une sorte de lumière sur soi. Jésus dit « Bon, c'est moi le meilleur, il n'empêche que je suis dans un esprit de service par rapport à vous, parce que c'est ça la vraie relation d'homme à homme, d'être humain à être humain. » Donc, lavement des pieds. Ensuite, on a le récit qui continue. Jésus apprend à tout le monde que Judas va le livrer. Et commencent les exhortations qui nous font sortir de l'équivalent dans les évangiles synoptiques. Donc Jésus qui va adresser un discours d'adieu à ses disciples, on va voir que l'objet, ce n'est pas forcément un testament, c'est plutôt de préparer les disciples à l'absence de Jésus. C'est de les équiper pour qu'ils soient prêts à affronter la vie sans Jésus. En quelque sorte, c'est le moment de l'évangile où Jésus fait une action de sevrage de ses disciples. Il va les rendre adultes. Le chapitre 14 est connu parce qu'il y a la promesse du Paraclet, l'Esprit Consolateur, Parakaleo, donc Kaleo c'est appelé. C'est cet esprit qui va être en quelque sorte l'avocat des disciples, c'est-à-dire qui va aider les disciples à pouvoir se défendre dans un monde dont on va voir dans ce chapitre 15 qu'il risque d'être particulièrement hostile. Donc ce que je vous propose, c'est que nous prenions la lecture de tout le passage que je vous avais proposé, c'est-à-dire le chapitre 15 et puis les quatre premiers versets du chapitre 16. Je vous ai préparé une feuille sur laquelle figurent le texte grec et le texte français. Donc on va se contenter de lire dans un premier temps tout le texte français pour qu'on ait bien l'ensemble de la dynamique de ce texte. Comme je n'ai pas spécialement de dons de clairvoyance, de prévoyance, de vision de l'avenir, etc., je ne pouvais pas me douter que ce texte serait tellement d'actualité. C'est-à-dire que à la question à quoi sert de lire la Bible, eh bien, ça peut servir notamment à mieux réagir dans un présent qui n'est pas sans rapport avec le contexte du texte biblique. Donc, comme j'avais intitulé la séance L'amour face à la haine, et notamment la haine du monde, dans un contexte où le climat a une sérieuse tendance à se dégrader et à faire preuve d'hostilité de toutes parts, eh bien, il y a ici quelques paroles de Jésus qui peuvent être une exhortation et même un encouragement à avoir une attitude singulière dans le concert de violence qui peut être le lot de notre quotidien. Voilà, vous avez à peu près toutes et tous cette feuille. Donc je vous propose qu'on se lance dans la lecture de ce passage. Voilà, si quelqu'un a envie de lire peut-être une personne jusqu'au verset 17 et puis quelqu'un qui lirait du verset 17 à la fin. Oui, François, merci.
Je suis le cep, le vrai cep, que mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit, afin que vous demandiez en mon nom, il vous le donne.
Si quelqu'un peut prendre la suite. Oui.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous.
Alors, à votre avis, quel est le verset central de ce texte? Verset central au sens de le verset phare, si on devait en choisir un qui résume l'ensemble, quel est l'objet? Si tout n'était que chantilly, sauf ce verset.
Aimez-vous les uns les autres.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon, à supposer que ce soit celui-là, je vois que ça vous plonge dans une consternation absolue. Mais vous avez tous une tête d'enterrement triste. Un texte qui parle de l'amour, vous êtes là, comme ça. Moi, je serais pasteur d'une autre église, je dirais que vous n'êtes pas très croyant. Hein, parce que votre foi ne se traduit pas par ce qui est, à mon avis, le centre de ce texte, à savoir la joie complète, parfaite. Pourquoi, à mon avis, c'est le thème de la joie qui est central dans ce texte? Justement parce que, non mais sur le plan de l'analyse du texte, pourquoi est-ce que ça ne vous a pas sauté aux yeux? Parce que d'abord, on va voir que le verset sur la joie, donc au verset 11, est le sommet d'un chiasme, c'est-à-dire un élément unique par rapport à un jeu de miroir dans la section où il se trouve. Et plus que cela, c'est que c'est le seul verset qui aurait pu vous offrir une lueur d'espoir dans ce monde infernal de la répétition. C'est-à-dire que peut-être que certains parmi vous ont commencé à s'assoupir parce que ça ne cesse de se répéter. Et que l'ennui gagne le lecteur qui se dit « mais où est-ce qu'il veut nous emmener là ?» C'est ça. Eh bien, il faut imaginer que Jean est un auteur du bassin méditerranéen. Mais oui, ça change tout, parce que c'est pas un anglo-saxon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un pasteur vaudois qui me dit ça, en me parlant de ses collègues italiens. Quand on discute avec un Italien, ce qui est important, ce qui compte, c'est ce qu'il ne dit pas. Je sais pas si les Vénitiens sont d'accord avec cette définition-là, mais c'est un peu pareil. Ce qui est intéressant ici, c'est justement ce qui se distingue de ce phénomène répétitif quasiment à l'infini, c'est-à-dire ce qui est dit en creux. Et en fait, les évangiles travaille là-dessus, et ça sera d'autant plus vrai, je file la métaphore, avec le jour de Pâques, puisque Pâques, précisément, aucun évangile ne va raconter la résurrection, tout va se faire en creux, y compris le tombeau. Ça ne joue que sur le vide. Et dans une certaine mesure, cet évangile fonctionne à ce moment-là de la même manière. Mais on est d'accord, le thème de l'amour est quand même très important dans ce texte.
La confiance.
Et la confiance, on va voir qu'elle va avoir son rôle, même si elle n'est pas évoquée de façon explicite. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous vous résistiez à ma capacité, peut-être cet après-midi, à monopoliser la parole, et donc que vous vous sentiez autorisé à intervenir, à poser les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le texte partie par partie. Je vais essayer de vous rendre attentif à des éléments du grec qui sont assez mal rendus dans la traduction française. On va le faire au fur et à mesure. Et on va, c'est mon idée, voir que ces éléments du grec nous donnent vraiment à penser ce que l'évangéliste veut nous faire entendre, que ça donne du sens et que le texte grec n'a pas besoin de beaucoup de commentaires finalement quand on peut y avoir accès, ce que je vais m'efforcer de vous faire. Je vais juste commencer par un petit élément stylistique pour ceux qui font des études de théologie et qui, à défaut d'être sur les bancs de la faculté aujourd'hui, sont ici, pour qu'ils ne perdent pas trop la main. À votre avis, ce texte est une parabole ou une allégorie ? Oui. Très bien. Très bien au sens où vous êtes tombé dans le panneau. Et ce n'est pas une parabole non plus. Vous savez, c'est comme dans... Il faut se méfier, je dirais. Méfiez-vous. C'est l'objectif des évangiles, c'est de vous rendre vigilant et attentif. C'est comme dans la grande évasion. Dans la grande évasion, à un moment donné, il y a un faussaire qui fait des faux papiers. Et puis, pour montrer son travail, il prend deux permis, enfin deux laissez-passer, et puis il demande quel est le faux. Et en fait, les deux sont faux. Bah là, les deux réponses étaient fausses. Pourquoi est-ce que c'est pas... Non, c'était pour réveiller certains. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire ce que sont des paraboles et des allégories dans l'écriture biblique. Pourquoi est-ce que c'est pas une parabole? Parce qu'il n'y a pas de formule d'introduction. Souvent, en principe, les paraboles commencent par « il était une fois » ou « le royaume des cieux est semblable à », vous voyez, des choses comme ça. Bon, là, il n'y a pas de formule d'introduction. Deuxièmement, si on regarde le premier verset, le mot « vigne » ou « cep » en grec a un article devant. « Je suis le cep ». Eh bien, le fait qu'il y ait un article défini montre que ce n'est pas une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme. C'est un article indéfini. Là, c'est un article défini. J'espère que vous appréciez la qualité de la précision. Parce que comme ça, c'est vrai qu'on n'y fait pas attention, mais sur le plan littéraire, c'est déterminant. Et quand on veut avoir des bonnes notes en exégèse, il ne faut pas oublier ce genre de détails. Bien, donc l'article défini devant Ampelos. Ampelos, ça vous fait peut-être penser à une collection de livres protestants. Montre que ce n'est pas une parabole. Ensuite, le discours ne cesse d'être interrompu. Il n'y a pas une parabole qui fonctionnerait comme une unité autonome. Il y a un peu comme un jeu de perroquet, ça s'emboîte, etc. Un phénomène que l'on retrouve pas mal dans l'Apocalypse, selon Jean d'ailleurs. Et puis, ce n'est pas présenté comme une comparaison. Il n'y a tout simplement pas la formule « ceci est semblable à » ou « ça fonctionne comme cela » ou « je vous dis cette parabole afin que... » Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une allégorie? Parce que contrairement à l'allégorie, les éléments d'identification sont donnés d'emblée au premier verset. C'est-à-dire qu'une allégorie est censée nous faire réfléchir pour que nous trouvions les éléments de correspondance. Mais là, ça ne donne pas à penser, puisque dès le départ, on dit « je suis le cep véritable ou la vraie vigne ». Donc, si c'est une allégorie, c'est une allégorie brisée. Voyez. Donc, première chose, c'est qu'on donne les éléments d'identification. Deuxièmement, le récit n'est pas structuré par une action dramatique. C'est un peu technique cela, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas une quête qui serait résolue par un événement particulier. Donc il n'y a pas de drame, en quelque sorte. C'est d'ailleurs peut-être ce qui peut être un peu pénible à la lecture, c'est qu'on a l'impression d'entendre Paul qui écrit, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait fonctionner les synapses et pas le cœur. Vous voyez, c'est comme une suite d'éléments discursifs. C'est du discours plus que de la narration. Donc, un élément pour dire que ce n'est pas une allégorie. Ensuite, il n'y a pas une histoire qui se construirait derrière l'histoire. Souvent, l'allégorie, elle est là pour que le lecteur aille chercher une deuxième histoire derrière l'histoire qui se joue. Même si ce texte, comme je vous le laissais entendre dès le départ, nous fait réfléchir à notre propre situation aujourd'hui. Mais ça ne renvoie pas à une... Comment dire, ça ne sert pas d'écran de projection. C'est plutôt différents éléments composites qui sont rassemblés. Ensuite, les injonctions, notamment au verset 3, par exemple, et puis au verset 4, surtout, « Demeurez en moi », etc., le fait qu'il y ait des impératifs, ça va à l'encontre des allégories. L'allégorie est là pour suggérer. Et là, il n'y a rien de suggéré. Tout est explicite, quoi. Je veux dire, quoi. En fait, Jésus fait sa déclaration de patrimoine et il n'y a plus rien de caché, quoi. Et ça, ce n'est pas allégorique. La déclaration de patrimoine n'est pas allégorique. Le bilan, il est... Voilà. Jésus nous fait le coup de l'homène, là. Bien. En revanche... Il y a des images dans ce texte. Et donc, sur le plan technique, l'exégète parlera de réseau métaphorique. Réseau métaphorique. C'est-à-dire qu'il y a des métaphores qui sont en discussion les unes avec les autres. Donc un réseau métaphorique, ça c'est le bon terme technique pour une exégèse. Très bien.
Sur le plan culturel, ce sont des images qui se rapportent à la vie de chaque jour.
Sur le plan culturel, ce sont des images qui se rapportent à la vie... de chaque jour, et donc ce sont des images qui sont très compréhensibles par les auditeurs contemporains de Jésus. Mais en France, ça fonctionne bien, parce que le thème de la vigne, c'est un thème magnifique, quoi. On n'est pas en manque de compréhension de ce que peut être la vigne, à condition d'être un peu lecteur de la Bible. Je vais y revenir tout de suite. Est-ce que par rapport à ces éléments un peu culturels, vous avez des questions? Oui. Eh bien, ça ne peut pas être une allégorie dans la mesure où l'identification, elle est faite immédiatement. Voilà. Et ça ne fonctionne pas comme une métaphore, non plus, puisque c'est « je suis la lumière du monde ». En fait, « je suis le vrai cep », c'est la septième mention, et la dernière mention, hein, c'est un septénaire chez Jean, de « je suis ». « Je suis la porte », »,« je suis le bon berger », »,« je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, ça ne fonctionne pas au sens strict du terme comme une parabole ou comme une allégorie, c'est une métaphore.
Est-ce que c'est très important de distinguer une parabole,
oui. C'est extrêmement important parce que si on fait une lecture allégorique, par exemple, imaginons que Jésus dise « je suis un arbre ». Ça veut dire que chaque partie de l'arbre peut être identifié à une caractéristique de Jésus. Donc on va se dire ceci, cela, l'écorce, les parasites, etc. Et ça, à mon avis, ça nous emmène sur une fausse interprétation du texte. C'est-à-dire qu'on va utiliser une image et on va faire de la surinterprétation. Si c'est une métaphore, alors ça veut dire qu'il y a un rapport d'analogie. C'est-à-dire que, par exemple, j'invente, mais l'arbre serait à la forêt ce que l'homme est à l'humanité, vous voyez. Ça, c'est un rapport de proportion, par exemple, ou un rapport de qualité. En tant que levain, je suis à la pâte. Non, en tant que Christ, je suis à l'humanité ce que le levain est à la pâte. Vous voyez, ça joue sur un rapport d'action. C'est-à-dire que la métaphore joue sur les verbes, les actions, et pas sur les qualités intrinsèques. Et du coup, il y a certaines prédications où on s'embarque dans des lectures allégoriques qui, à mon avis, sont de la surinterprétation, parce que, je ne sais pas, après on peut prendre sur les arbres des différences entre le roseau et le chêne, vous savez, avec l'histoire de la souplesse. Bon, ben, en fait, Jésus ne nous embarque pas sur des histoires de souplesse, de « je résiste au vent ou pas ». Alors, si on commence à mettre ça dans une prédication, à mon avis, très bien, ça peut être intéressant, mais le texte n'en parle pas, en fait. Donc, pourquoi c'est important de distinguer ? C'est pour limiter la surinterprétation, je pense. À mon avis, d'ailleurs, c'est ça le sens de l'exégèse historico-critique, c'est de disqualifier des interprétations qui n'ont pas lieu d'être.
Est-ce que l'arbre n'a pas été considéré comme éternel à un moment, parce qu'il a poussé, et... Et au Moyen-Âge, je crois qu'ils arrivaient à planter un arbre sur une tombe parce que c'était pour montrer que c'était l'arbre qui continuait et qui était. Parce qu'à l'époque, il y avait des arbres, il y a toujours eu des arbres qui durent beaucoup plus longtemps que l'homme.
Alors, l'arbre, notamment l'arbre pour les tombes, en l'occurrence, c'était souvent le cyprès d'ailleurs. C'était une manière de dire aussi la résurrection, puisque c'est un arbre qui est extrêmement droit, hein, qui donne la silhouette de l'homme. À la fois, ça fait référence à l'arbre de vie dans la Genèse, mais tout simplement la métaphore végétale de l'homme, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire quelques fois, ça interroge l'homme dans ses trois dimensions, à la fois les racines qui plongent dans la terre où sont enterrés les anciens, la terre sur laquelle nous sommes appelés à vivre, et le ciel dans lequel nous pouvons déployer les branches et où nous portons du fruit qui ne se fait pas au ras des pâquerettes, mais qui se fait à la hauteur de l'ultime, c'est-à-dire du ciel, symboliquement le lieu de Dieu, en fait.
C'est une très belle image.
Oui, c'était une très belle image, mais...
Mais au-delà de l'image.
Alors attendez, juste, oui. Oui, oui, mais vous voyez, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que ce genre d'image, elle nous plaise. Et vous voyez, on s'embarque dans cette image-là, qui n'est pas du tout celle du texte. Et en fait, vous préférez parler de cela plutôt que parler du texte. Je vous comprends, mais ça ne va pas être possible. Et en fait, c'est ça. C'est ça l'intérêt de la précision, c'est pour revenir au texte plutôt que de projeter là où ça nous fait plaisir. Et Jésus va nous faire, dans ce texte, travailler sur la question du véritable désir purifié de toutes les scories. On va tout de suite y aller, parce que sinon vous allez m'embarquer sur autre chose. Bien. Donc, Ampelos, le cep ou la vigne, je ne vous laisse pas le choix, ça fait référence à Israël. Ah, vous voyez, vous dites, ah bon, mais en fait, on le sait parce que si vous prenez Jérémie, chapitre 2, verset 21, si vous prenez le psaume 80, les versets 9 à 17, ou si vous prenez le livre du prophète Ésaïe, où je vais vous lire quelques passages, au chapitre 5, verset 1 à 7, voilà ce que nous avons, chapitre 5, verset 1 à 7, le paragraphe est carrément intitulé par l'éditeur « La vigne de l'Éternel ». Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit autour une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis n'y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait, il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que la vigne, est là pour dire Israël. Donc, quand Jésus dit « Moi, je suis le vrai cep ou la vraie vigne », en fait, il dit « Je suis le vrai Israël ». Voilà, c'est, je vous le décode comme ça, c'est vite fait, bien fait. Vous voyez, il se distingue ici de cette parabole où on avait les ouvriers qui vont à la vigne et qui vont finalement tuer le Fils, comme préfiguration de ces hommes qui vont tuer Jésus, c'est-à-dire le fils du propriétaire de la vigne. Ici, Jésus s'identifie carrément à la vigne. Il s'identifie donc à Israël, le véritable Israël. Ce qui, comprenez bien, est un sujet extrêmement polémique. Quel est le véritable Israël ? Est-ce que Israël se définit par son lieu ? Est-ce que ça se définit par un lieu sacré ? Est-ce que ça se définit par une circoncision ? Est-ce que ça se définit par le fait que notre mère était d'Israël ? Bon. Là, Jésus, en fait, neutralise toutes ces définitions et il va nous donner ce qu'est la définition du véritable Israël dans la suite. Oui, c'est extrêmement polémique, en fait.
Oui, parce que les Juifs, tous ces éléments, ce sont des éléments fondateurs pour eux.
Bien sûr.
Nous ne sommes pas forcés d'avoir la même interprétation, de leur accorder la même importance.
Néanmoins, si on veut retrouver l'intention de l'auteur et du texte, il faut tenir compte de ces éléments culturels. Pour se dire, à l'époque où ça a été rédigé, en tout cas, ce texte exprimait cela. Mais on peut après faire une transposition, c'est tout le sens de l'art de l'interprétation, de l'herméneutique, c'est de voir dans notre situation, est-ce que ça peut nous aider à y voir plus clair d'une manière ou d'une autre. Mais on comprend bien que ce genre de parole de Jésus ne peut qu'exacerber la violence contre lui. Hein. Parce que les grands prêtres, là, ils se font balayer. Soit dit en passant, le récit qui manque dans Jean, c'est-à-dire le récit d'institution de la scène, si on le compare à la littérature juive disponible, c'est en fait le récit d'intronisation du grand prêtre. Le pain, le vin, on le trouve ça dans le testament de Lévi, dans les écrits intertestamentaires, la Pléiade, si ça vous intéresse. Et le fait que Jésus partage ce repas avec ses disciples préfigure la question du sacerdoce universel. C'est-à-dire que tout le monde est grand prêtre. Et c'est complètement inconcevable. Il y a un grand prêtre, en principe. Donc Jésus casse une figure extrêmement... extrêmement, comment dire, sacrée, mais aussi normative. Donc il y a une transgression de la part de Jésus qui ne peut qu'exacerber la violence contre lui. Jésus, qui, je vous le rappelle, est quand même le fils de Marie, sa cousine Élisabeth a épousé un prêtre qui sert dans le temple, donc il y a des chances qu'Élisabeth soit elle-même lévite. Si elle est les cousines de Marie, Marie a donc toutes les chances d'être elle-même lévite, puisque la tribu de Lévi, en principe, doit se marier avec des gens de la tribu de Lévi. Jésus est donc plutôt lévite, de ce point de vue-là. Ça veut dire que Jésus, en fait, est susceptible de devenir grand prêtre. Vous voyez, un peu comme un conflit d'intérêts, quand même, dans cette histoire. C'est-à-dire que Jésus peut prendre la place du grand prêtre actuel. Le liquider, c'est pas tout à fait gratuit. Ça peut avoir un intérêt. Bien. Donc, Jésus est la vraie vigne et son père est... Alors, on traduit le vigneron, en fait, le terme grec, c'est Georgos, c'est plutôt agriculteur, en fait, celui qui travaille la terre. C'est pas simplement celui qui travaille la vigne, c'est celui qui travaille la terre. Donc, c'est plus large. C'est celui qui entretient la création. Ouais, c'est quand même plus intéressant. Oui, François.
Alors, tout de suite, au début du texte, il y a le verset 3 qui me pose problème.
Le 2 est bien, mais très bien pour toi. Oui.
C'est les sarments, les retranches, qu'on nous montre. Le verset 4, comme le serpent, donc on continue, comme le serpent ne peut lui apporter de fruits, on continue sur la même image. Le verset 3, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui me dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. »
Oui.
Alors, moi, ça me pose ça demande vraiment une réflexion, une explication.
Alors, je vais vous la donner.
On n'est plus simplement à partir du moment où la parole vous est annoncée.
Oui.
On la reçoit et elle devient active.
Alors, en fait, il y a un lien avec le verset 2. Mais il est dans le grec, le lien. C'est que c'est le même verbe. C'est-à-dire que là où on a émondé ou retranché, c'est pas émondé ou retranché, c'est purifié. C'est les cathares. C'est-à-dire que vous, là, il dit, vous êtes des cathares. Cathares. Les cathares sont les purs. Et c'est le terme grec hein, que vous avez aussi bien au verset 2, donc kataireï, que au verset 3, vous êtes les kataireï, les kataireï, pardon. Vous êtes kataireï, dia à travers, ton logon, le verbe, on lelaleka, que j'ai dit, humine à vous. Donc c'est à travers la parole que j'ai dite que vous avez été purifié, ce qui correspond au lavement des pieds. Je vous y renvoie, Jean chapitre 13, verset 10. Jean chapitre 13, verset 10. Jésus dit à Pierre, Pierre qui dit, mais alors si vraiment il faut que tu nous nettoies, ne te contente pas de me laver les pieds, tu me nettoies tout entier. Quoi. Moi je veux tout, je veux l'intégrale, je veux la formule complète. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur et vous êtes pur, mais non pas tous. Pourquoi ? Parce que tous n'ont pas été au bénéfice de la parole qu'il a dite. Et au fond, cette parole, en quoi est-ce qu'elle peut purifier ? Elle peut purifier en ce sens qu'elle... Parce que Jésus est la lumière du monde, il nous fait sortir de l'obscurantisme, c'est-à-dire que là où tout n'est que tohu-bohu, dans le récit de Genèse 1, tout est en bazar, incompréhensible, la parole permet de discerner, de distinguer les choses, de leur donner du sens, de leur donner une place, et donc de pouvoir se repérer. Donc, la parole, c'est ce qui fait sortir quelqu'un du flou. Quand un enfant, vous lui expliquez le monde, lorsque vous lui expliquez la vie, alors il peut enfin arpenter le monde. Les évangiles travaillent notamment sur le décortiquage de la mécanique de la violence. On peut considérer qu'il y a beaucoup de mal subi qu'on n'a pas vu venir. On ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ça vient. Eh bien, les évangiles s'efforcent de mettre les mécanismes en lumière pour qu'on puisse non seulement les voir arriver, mais du coup les esquiver éventuellement, ou en tous les cas réagir.
Alors pourquoi est-ce que les traducteurs, au lieu de dire « déjà vous êtes pur », n'a pas employé le mot que vous nous expliquez, « déjà vous êtes purifié à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Là, ça serait beaucoup plus... On comprendrait « déjà vous êtes purifié à cause de la parole ».
Oui, alors, la bonne traduction, pour le coup, c'est « vous êtes les purs ». Vous êtes purs. Non, là, pour le coup, la traduction est bonne. Mais « pur », c'est le résultat de ce travail de purification avec le terme grec « dia », c'est-à-dire « par le moyen de ». Vous avez été rendu pur, pour bien comprendre le sens. C'est-à-dire que ce n'est pas « pur » sans qu'il se soit rien passé. C'est que vous n'étiez pas pur et maintenant, vous l'êtes. C'est pour ça que j'ai dit purifier, ce qui est un abus de langage par rapport au texte à la lettre, mais qui est juste par rapport au sens. Et du coup, vous voyez, on le retranche. On a l'impression qu'on fait des coupes sombres. Ben, c'est pas dans le texte, les coupes sombres. Dans le texte, on purifie. Mais on ne purifie pas forcément par la politique de la terre brûlée. Peut-être. Mais si c'est la parole qui est l'objet, enfin le moyen par lequel on purifie, on comprend bien que c'est plutôt de l'ordre de la conversion que de l'ordre de l'élimination. Ou alors on élimine en soi ce qui mérite d'être éliminé. Mais ce n'est pas comme dans les nid clubs où tu rentres, tu rentres pas, tu rentres, tu rentres pas. Bien. Ensuite, le verset 4, il y a donc ce thème du « demeurer en moi ». Alors, le « demeurer en moi », le « demeurer », donc en grec « menos », ça va revenir assez souvent. Et c'est juste un procédé mnémotechnique pour comprendre ce texte, mais méno, ça, on pourrait le raccrocher à communion. Ça n'a pas de rapport, en fait. Mais en fait, ça nous parle, à partir de ce moment-là, de la question de la communion. Ça signifie quoi, demeurer en Christ? Évidemment, avec l'image du sarment, on a l'impression qu'on est greffé physiquement. Et alors, du coup, ça donne une vision matérialiste de la foi, où on va se dire, bon, alors, par exemple, la scène, c'est une communion avec des éléments matériels, donc c'est dans le matériel que la communion va se faire. Et en fait, ces images qui sont très physiques peuvent nous donner l'idée que c'est dans le physique que les choses se passent. Mais c'est une analogie, et donc ce que l'on va voir dans la suite du texte, c'est que c'est à partir du moment où on conforme notre action à la manière d'agir de Jésus que l'on est en communion. Donc, essayons de nous dégager de greffe au sens technique du terme. Essayons de nous dégager de habiter dans une espèce de cocon, mais essayons plutôt d'avoir en tête une analogie, c'est-à-dire de même que Jésus était dans ce rapport au monde, nous-mêmes, nous devons avoir ce rapport au monde.
C'est une image très statique, au fond, la vigne, alors que notre vie est plus dynamique
que ça. Ouais. Et que la vigne, en fait, est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'elle ne cesse de changer d'allure au fil des saisons. Et si on ne taille pas la vigne, elle pousse de façon bien plus importante qu'on imagine. Bon. Mais la vigne est quelque chose de dynamique, puisqu'elle va porter du fruit. Et qu'après, le fruit donnera le vin. Qui, soit dit en passant, selon le psalmiste, est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Mais c'est en ce sens que c'est un réseau métaphorique. C'est que la vigne, c'est précisément ce qui peut conduire à la joie, puisque c'est ce qui permet de faire le vin. Soit dit en passant, c'est la dernière mention du « je suis quelque chose ». Mais ça vient aussi clore un cycle, c'est le cycle qui avait été ouvert à Cana, avec le vin. C'est-à-dire qu'on passe du vin à la vigne. C'est-à-dire que c'est bien gentil, cette histoire de remplir des tonneaux et d'en faire du vin, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Je vous l'avais dit d'ailleurs avec Augustin. Pourquoi est-ce qu'on considérait que c'est surnaturel ce qui s'est passé aux noces de Cana? De l'eau transformée en vin? Mais comme le disait saint Augustin, précisément, c'est ce que fait la vigne chaque année. Et la véritable vigne, elle est là. Et au fond, on est appelé à être accroché à cette vigne-là. Ça veut dire qu'on est appelé à être le véritable Israël aussi. Ça veut dire qu'on est appelé, nous aussi, bien sûr, à transformer l'eau en vin. C'est-à-dire, on l'avait vu, la platitude du rituel dans le pétillement de la vie. Faire surgir la joie là où il n'y a que ces mines attristées que vous aviez pendant la lecture de ce chapitre. Mais je ne voudrais pas vous dire que je suis le cep véritable. Bien. Donc, il y a là donc une analogie, c'est en ce sens que c'est une métaphore. Comme le sarment ne peut porter lui-même du fruit, vous non plus, vous ne pouvez pas porter vous-même du fruit. C'est-à-dire que c'est ici une polémique contre ceux qui ont toujours à la bouche l'idée qu'ils se sont construits à la force du poignet. Quel est ce fantasme d'un homme auto-construit, auto-fondé? Quelle est cette idée selon laquelle je ne serai pas au bénéfice d'un réseau éducatif? Quelle est cette idée selon laquelle je ne serai pas au bénéfice d'une mise en commun de biens qui permettent de construire un réseau de communication, un réseau de sécurité sociale, un réseau culturel? Qu'est-ce qui m'autorise à penser que je ne suis pas au bénéfice de responsables politiques qui se sont mis ensemble pour assurer un minimum de paix? Qu'est-ce qui peut nous autoriser à penser que nous serions autoproducteurs de notre existence? La vie véritable, c'est lorsque nous reconnaissons nos réseaux précisément, nos liens, nos racines. Où plongeons-nous nos racines? Et du coup, sur quel cèpe sommes-nous attachés, à quel cèpe sommes-nous en communion en fait? Bien, le verset 5, le suivant, dit, eh bien, si vous voulez une vie intéressante, vous avez le choix, effectivement, entre vous couper de tout ou être en communion avec moi qui suis producteur de cette richesse de vie-là et qui suis capable de vous faire porter du fruit. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de deuil, c'est-à-dire que Jésus prépare les disciples à son absence, surmonter à la fois le deuil, l'absence, et donc les équiper pour qu'ils soient capables de mener leur propre existence. Et il dit, porter du fruit, cela est possible à cette condition-là. C'est-à-dire, quel est le fruit qui demeure, quel est le fruit qui se conserve bien? C'est le fruit qui va être la production de ce qui va suivre, à savoir la production de l'amour. On va le voir dans la suite. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc, vous avez entendu cela déjà dans le livre d'Ésaïe que je vous ai lu, hein, avec la vigne qui donne des fruits infects et puis finalement qui va sécher. C'est de la théologie du process ici. La théologie du process par rapport à la notion de jugement, elle dit ceci. Dieu ou le Christ réinjecte du possible dans notre existence, nous donne de nouveaux défis à relever, ouvre notre horizon de possible, restimule notre vie, redonne de l'énergie à notre histoire. Mais libre à nous de l'accueillir ou pas. Et si on refuse tout ce que le divin peut injecter dans notre histoire, alors notre existence se rétrécit, elle s'appauvrit, elle se dessèche, pour prendre cette métaphore-là. Et elle meurt d'elle-même. Non pas comme un jugement et une punition qui viendrait de l'extérieur, non pas comme le résultat d'un être divin qui nous punirait en nous faisant sécher sur place, mais comme la conséquence de notre propre décision qui est de se priver de cette puissance créatrice que Dieu met à notre disposition en permanence. Oui.
Là, il y a quand même quelque chose dans ce verset. Donc, il faut bien comprendre que si on ne demeure pas, on est dans un fragment qui sèche.
Oui.
Et ça va au-delà. Ça pourrait s'arrêter là. Donc, on sèche. On va bénéficier de cette sève. Mais, en plus, on vous jette au feu et on brûle.
Oui.
Ça, c'est une condamnation. C'est quand même.
Au moins, on devient utile à un moment donné de sa vie. Ce que je veux dire.
On vous élimine. On vous jette au feu et on vous élimine. C'est un langage qui doit. À mon avis, que les évangéliques. Dont les évangéliques abusent.
Oui. Mais je trouve que c'est une rhétorique qui frappe l'imagination. Si on regarde dans le détail, on se rend compte que cette situation est le résultat de notre comportement et pas d'une condamnation de Dieu. Mais en revanche, on en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'on met en perspective et on réalise du coup ce que ça signifie vraiment de sécher. Parce qu'on peut se dire, bon, très bien, notre vie, elle s'appauvrit un peu, bon. Mais en fait, le fait qu'elle soit complètement brûlée, etc., voilà, là, ça peut nous faire prendre conscience.
Mais bon, je sais pas, c'est une image de l'enfer.
Effectivement, on peut, à partir de là, développer un imaginaire de l'enfer, oui. Si ce n'est que on est dans le registre de la métaphore. Ce qui signifie, quand Jésus dit que c'est un cèpe, on a quand même compris qu'il ne se transformait pas véritablement en cèpe avec des petites branches et des petites feuilles. Donc, là, on est d'accord quand même pour dire que c'est vraiment une métaphore, que c'est une image. que ça ne dit pas la réalité dans son aspect concret. Non, vous n'allez pas me faire croire que vous imaginez que Jésus puisse se transformer et que les contes d'Anderson, ça fonctionne comme ça. Du coup, quand on dit qu'il est brûlé, ça ne veut pas dire qu'on va brûler les personnes, mais ça veut dire que le résultat est le même. Vous voyez, c'est un rapport d'analogie. C'est comme en mathématiques. A sur B égale C sur D. Donc A est à B ce que C est à D. Là, c'est rationnel, c'est implacable. Pierre, c'est comme les explications financières de Francine à l'Assemblée Générale, c'est incontestable. Là, je vais dire... Bien. Qui est contre, qui s'abstient? Oui, nickel. Bien. En tous les cas, c'est vrai que ça prête le flanc à des développements quand on les prend pour des allégories. Tout à fait. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, on les ramasse à sarment, on les jette au feu et il brûle donc. En revanche, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une phrase, on ne peut pas la laisser comme ça. Ça, c'est trop horrible, voire limite affreux. Là, il faut prendre du grec, grec, grec. Parce que cette phrase, elle donne l'impression que en français courant, c'est « demander n'importe quoi, vous l'aurez ». Eh ben non, ça ne parle pas de ça. Donc, on va l'apprendre en grec. Donc, si vous demeurez, bon, ça reste le verbe « meno », très bien. Et là, ce n'est plus « logos » dont il est question, c'est « ta remata ». Dans mon idée, le logos est au amar, ce que le remata est au dabar. C'est clair ? Alors, si vous n'avez pas bien suivi, samedi matin à 10h, il y a le cours de Gilles Castelnau pour l'hébreu biblique. Donc, il y a d'un côté le logos, qui est le amar. C'est Genèse 1, vous savez que Dieu parle et il se passe des choses. C'est wayomer, donc c'est le verbe amar. Donc c'est une parole créatrice, c'est une parole qui fait advenir des choses. Advenir, c'est le bon terme. Et il y a le dabar qui est plus législatif. Le dabar, les devarim, c'est les ashrim devarim, les 10 paroles. Vous voyez, il y a un côté commandement, en fait. On va reprendre d'ailleurs le terme commandement. Et bien ici, remata, ce sont ces paroles qui structurent, disons, qui donnent une perspective. Il y a des paroles qui font surgir de terre, il y a des paroles qui font vivre, et puis il y a des paroles qui maintiennent la vie. Et bien les remata, c'est fait pour maintenir la vie. Et le logos, c'est fait pour surgir la vie. Le logos dit « debout les morts », et le remata dit ce que vous allez manger pour ne pas vous retomber tout de suite en hypoglycémie. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc mes paroles pour continuer à être. Donc là, on passe au grec. Ce que télété, c'est le verbe qui donne le télos, le vouloir. Voilà, aïté sasté, donc ce que vous demanderez, eh bien, c'est pas ça vous sera accordé, c'est le verbe ginomai, ça adviendra. Ça adviendra.
Et cela adviendra. Alors.
Pour vous, ouais. Cela adviendra pour vous.
C'est un peu la même chose.
Eh bien, non. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la même chose. Parce que dans la première formule un peu convenue, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, vous demandez et quelqu'un vous le donne. En revanche, demandez ce que vous voulez au sens du télos. Le télos, c'est aussi la finalité. La téléologie, c'est l'étude de la fin, c'est-à-dire de l'ultime. Demandez ce qui est ultime. Demandez le philosophe Mick Jagger a une formule là-dessus, il en a fait une chanson. Vous ne pouvez pas toujours avoir ce que vous voulez, en revanche, vous recevez ce dont vous avez besoin. Bien, c'est de ça dont il est question. Demandez ce dont vous avez besoin, mais pas le besoin de la fièvre acheteuse. Le besoin véritable, votre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est to epiousion, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de l'être, hein, qui est au-dessus de l'essence, au-dessus de, qui est supra-essentiel. Eh bien, demandez cela, et ça va advenir. C'est-à-dire, faites comme le psalmiste. Criez la vie, et la vie arrive. Il y a des poèmes là-dessus, je ne sais plus quoi, crie quelque chose à la face du ciel et ça va arriver. Colette dirait, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Vous évacuez le distributeur automatique de biens précieux et vous pensez la vie spirituelle comme ce moment où nous sommes capables de formuler quelque chose de juste par rapport à nos besoins véritables. Ce moment où on peut distinguer donc le superflu de l'essentiel, mais plus exactement où nous sommes capables de mettre en mots ce qui, pour nous, sera vraiment le moteur de notre vie, ce qui nous fera vraiment vivre, indispensable, inconditionné, dirait Tillich, etc. Vous savez, ces moments où on peut dire on peut tout me retirer, de toute façon ça restera, ça c'est inaltérable. C'est le moment où on peut dire ce qui est inaltérable. Je trouve que ça change un peu la donne quand même. Et en disant cela, je dis ce que dit le texte, le télos. On pourrait s'arrêter là, mais le texte continue. Donc ensuite, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bon, bah là, on a l'éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme, à moins que ce soit l'inverse. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle James Woody, j'ai tant sur mon compte en banque, ça montre que je suis un élu, quoi, que j'ai réussi ma vie, quoi, voilà. Je ne ferai pas de commentaire avec l'actualité, mais on voit que tout le monde n'est pas égal devant le patrimoine. Bon, en tous les cas, il n'y a pas l'idée selon laquelle il faudrait avoir la voiture la plus ratée pour montrer qu'on rend gloire à Dieu. Bien.
Mais tu sais très bien que l'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de savoir ce qu'on en fait.
Ah oui, oui, mais ça, on est bien d'accord.
Comment on l'a gagné et ce qu'on en fait.
Alors, c'est pas vous serez mes disciples. Mais c'est « vous deviendrez mes disciples ». C'est le même verbe qu'au-dessus, c'est encore guinomai. Vous adviendrez au statut de disciple. Guinomai, advenir, c'est venir au monde. C'est surgir, il y a de l'événement. Vous voyez, c'est tout sauf statique, cette image-là. Ça secoue, c'est dynamique, ça remue. Il y a le sol qui craque. Il y a les branches qui commencent à sortir, les petites feuilles comme ça, là. Voilà, c'est la vie, quoi. Ensuite, le verset 9. Alors, le verset 9 aussi est à comprendre. Donc, katos egapesen, mais au pater, donc, comme a aimé moi le Père, donc comme le Père m'a aimé. Et moi, je vous ai aimé. L'idée, c'est... Oui, François ?
On aurait pu dire aussi, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, au lieu de dire « demeurez dans mon amour », on aurait pu dire « demeurez dans son amour », l'amour du Père. Et là, Jésus se positionne, en quelque sorte, comme... je ne sais pas si c'est un intermédiaire...
On peut dire ça, on peut dire intermédiaire, oui. Certains en protestantisme diront l'unique intermédiaire, d'ailleurs. Je crois que c'est le rabbin Markel Waknin qui parle de lieu tenant de Dieu. Pas à propos de Jésus, mais dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que la rhétorique de Jean, c'est de dire « nul n'a vu Dieu ». Nul n'a jamais vu Dieu. Et donc, l'évangéliste Jean dit qu'on ne peut se raccrocher qu'à ce que nous sommes capables de concevoir, en l'occurrence, celui qui a partagé la condition des hommes. Et par transition, en étant attaché à lui, lui étant attaché au Père, nous sommes attachés au Père. Mais l'honnêteté de Jean, c'est de dire on ne peut pas faire mieux que de viser le Christ. C'est-à-dire, il le dira dans son épître, viser l'amour, puisque Dieu est amour. Et ça va être le développement dans les versets qui vont suivre. Mais même dans la prière sacerdotale du chapitre 17, quand Jésus dit « toi », enfin il s'adresse à Dieu en disant « toi et moi, nous sommes un », et que « eux soient un en nous, comme moi je suis un en toi », voilà, il y a une sorte de... il y a une agrégation. On peut dire qu'on est tous agrégés en théologie, quoi. Sans que ça soit contesté par qui que ce soit. Ça, c'est chez Paul. Chez Jean, on va voir que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'histoire de tête ou autre. Il y a corps, en ce sens où tous participent d'une même perspective ou d'un même effort commandé par l'amour. Au fond, à quoi les gens reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus si nous avons de l'amour les uns pour les autres? C'est la rhétorique de Jean. Donc c'est cette dynamique de l'amour qui signe notre adhésion au corps du Christ. Mais c'est à prendre en complément l'un et l'autre.
Le comme que l'on voit là,
ouais.
C'est une sorte de communion aussi,
ouais.
Qu'il y a entre le Père et le Fils.
C'est une comme union. Mm-hmm. Ouais. Ça c'est... Jacques Lacan n'aurait pas dit mieux. Ce qui est important, c'est de ne pas le comprendre comme un mot de réciprocité, au sens où, comme Dieu m'a aimé, je suis obligé de vous aimer aussi. Vous savez, des fois, on demande dans les associations quelles sont les motivations des bénévoles. Et ils disent, comme j'ai beaucoup reçu, il faut que je donne beaucoup. Sous-entendu, il y a une logique de l'équivalence. Ça, c'est pas la théologie de la grâce. Le comme ici, il n'est pas dans cette logique-là. C'est un comme de qualité. C'est-à-dire, de la même manière que Dieu m'a aimé, moi aussi je l'ai aimé. C'est-à-dire que c'est à la même hauteur, même qualité. C'est pas donnant-donnant. C'est pas comme tu as été gentil avec moi, du coup je vais être gentil avec toi.
C'est une conséquence aussi.
Alors, j'essaie de vous dire que c'est pas en termes de conséquences que ça se joue, mais plutôt en termes de comparaison, d'égalité, de qualité, aussi bien, quoi. J'ai fait autant d'efforts, si on voulait le dire de façon compréhensible, mais pas tout à fait juste par rapport au texte.
Oui. Même, je trouve qu'on entend ce comme plutôt comme un moteur, c'est-à-dire c'est un petit peu comme certains enfants qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour, qui ont du mal à donner de l'amour à l'âge adulte, c'est un peu bateau comme image, mais... J'ai l'impression que c'est cet amour reçu qui fait que les hommes, du coup, ont cette possibilité d'aimer avant tout.
Oui, ça reste la logique de la conséquence en un peu plus positif. Mais...
Je pense que ce soit une conséquence parce que c'est vraiment c'est l'étincelle, en fait. C'est vraiment l'étincelle,
d'accord,
qui met en route, en fait.
Une étincelle sans conséquence. Sauf quand il y a un phénomène d'entraînement. Au fond, vous dites qu'il y a une contagion de l'amour.
Oui, c'est plus une contagion, parce que la conséquence, il y a quelque chose comme une obéissance qui n'est pas du tout dans l'amour, parce que l'amour ne peut pas reproduire. L'amour ne reproduit pas ce qu'il a reçu.
Non, il n'y a pas une... Effectivement.
Négative.
Oui, absolument. Mais alors dire qu'il n'y a pas d'obéissance sous la plume de Jean, là, je crois qu'au contraire, il fait des disciples, des personnes qui vont obéir, c'est-à-dire... Akuo, se mettre sous l'écoute du maître et qui vont garder ses paroles, c'est-à-dire obéir à ses paroles.
Mais le maître peut-il maîtriser le sens de la propulsion donnée par l'étincelle?
Non. Non, 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 non. Non, non, le maître ne maîtrise pas cela. D'ailleurs, je ne sais pas si le maître maîtrise, mais ça n'appartient qu'à celui qui en est le vecteur. Et encore, ceux qui en est le vecteur ne maîtrisent pas forcément bien la trajectoire. Ça aussi, Paul en parle pas mal. Non, elle va être une... L'obéissance ici, ce n'est pas de la soumission, on va le voir, puisqu'il va faire la distinction entre l'esclave et l'ami. L'obéissance, c'est un, la connaissance de la parole, et deux, la confiance dans la parole. C'est-à-dire que pour obéir, il faut un, avoir conscience de la parole, c'est pour cela qu'il va parler ensuite du péché, et deux, être saisi par cette parole-là et en faire quelque chose. La foi, c'est ça, en fait. C'est d'être saisi un peu irrésistiblement. C'est pour ça que l'image de l'étincelle est intéressante. Parce que la paille ne peut rien faire contre l'étincelle, quoi.
Ouais. Puisque tu prends comparaison électrique,
vous aimez bien les allégories, hein.
On n'est pas dans la situation, je sais pas, d'être traversé par le courant électrique de l'amour, hop, d'un côté on frappe, de l'autre côté ça ressort. Il me semble que de notre part, il nous est demandé de faire quelque chose. On a reçu la vie de Dieu, on a la conscience, et on doit le transférer en faisant quelque chose de notre part.
Mais on n'est pas juste un
courant qui passe comme ça.
On n'est pas juste un dipôle électrique. Oui. Il y a quelque chose qui se met en marche avec cette électricité, oui. Peut-être comme un moteur électrique qui transforme l'électricité en énergie physique. Moi aussi, hein, je peux filer les allégories. Un appareil qui chauffe, tout ça, mais bien sûr. Oui, c'est possible. Dans ceci dit, c'est vrai. Mais vous voyez, hein, comme vous avez une vraie propension à filer les images. Hein.
Comme introduire quelque chose d'automatique. Il me semble que ça nous demande quelque chose de plus, ça nous demande d'aller voir, ça nous demande d'expérience.
On va le voir au verset 14. Verset 14, il y a un verset pour quelqu'un ici. Bien, alors, on commence à voir au verset 9 toute la rhétorique sur l'agapé, l'amour. Donc, la thèse centrale, c'est l'amour, mais quand même le verset 10, vous voyez, c'est, je pense, celui qui va parler de l'obéissance. Comment demeurer dans l'amour, ça va être quand même le thème de l'obéissance, je pense. Mais une obéissance sympathique, pas une obéissance servile. On va voir ça gentiment. Ce que l'on peut se dire à ce sujet, je vais essayer de vous montrer le chiasme dont je vous ai parlé pour vous montrer que le verset 11 est bien au milieu d'un chiasme. Si vous prenez le verset 7, ça serait le stick A. Le verset 7, c'est une promesse relative à la prière. Eh bien, le correspondant... Donc, il va y avoir ABCD, donc vous pouvez garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. La septième ligne, c'est A', et c'est le verset 16b, où on a à nouveau une promesse relative à la prière. On a une sorte de correspondance. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, 16b. Ensuite, si on rapproche le chiasme, donc le chiasme, c'est un enchâssement. Au verset 8, on a les disciples porteurs de fruits. Et ça, on le retrouve au verset 14 à 16b, avec les amis choisis pour porter du fruit. Que le fruit soit porté et qu'il demeure. Ensuite, si on rétrécit encore, donc le stick C, c'est demeurer dans l'amour, c'est les versets 9 et 10. Demeurer dans mon amour. Et le correspondant, le C', donc c'est à nouveau la question de l'amour au verset 12-13, c'est aimer comme il a aimé. Avec le, il n'y a pas de plus grand amour, quoi. Et donc au milieu, on a le verset 11 tout seul. Petit chien de glouton, plus de brebis perdue, je suis là. Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Votre joie soit parfaite, c'est une joie, en fait... Plérotée, c'est le plérôme complet, absolu. C'est-à-dire qui remplit l'univers. C'est-à-dire sans espace vide, accompli, total, non blessé. L'Itabassé parlait de joie imprenable. Donc le chiasme, c'est cet enchâssement qui fait qu'il y a au milieu l'élément qui est l'élément central dans la pensée de l'auteur. Donc kara, la joie. Juste avant, au verset 10, je reviens dessus puisque c'est la question de l'obéissance. Là, vous voyez, il y a un petit saut. On avait le logos, on avait rhéma, la parole, et maintenant on a entolé, le commandement. Entolé, le commandement. Alors le commandement, souvent, on le comprend comme l'ordre divin auquel on ne peut échapper. Vous évacuez cette idée et vous pensez à commandement comme parole du Père. Parole du Père qui est cette parole qui va aider l'enfant à devenir adulte. À la fois, c'est une parole qui pose des limites pour identifier les dangers, et c'est une parole qui encourage pour aider l'enfant à entreprendre des projets, à quitter père et mère et à s'attacher à son conjoint. Donc, c'est main de fer dans un gant de velours. Bon, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ne pensez pas commandement comme la chose qui vient donner des taloches, tout ça. C'est la parole du Père qui aide l'enfant à venir au monde.
Il y a toujours des histoires de taloches, même dans les théos.
Ouais, quand on a un peu du mal à crier. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, je ne vais pas vous faire un cours sur les taloches ou quoi. Sinon, ça va être encore d'autres métaphores. Oui, François.
Dans le verset 10, il y a un mot que je trouve central.
Oui.
C'est le mot garder.
Oui.
J'ai gardé. Mm-hmm. Je me le rapproche, on va dire, à, je le compare à ces versets de Deutéronome. Je crois aussi, j'ai mis devant toi la vie morte choisie.
Oui.
Là, c'est un dans Deutéronome, c'est le choix choisi.
Oui.
Le mouvement de choisir. Ici, on nous demande de garder.
Dans le Deutéronome, on a aussi gardé. Vous garderez mes paroles, vous garderez mes commandements. Il y a même cette idée qu'il faut le mettre sur les linteaux de la porte, etc. Donc, je veux dire, ton analogie avec le Deutéronome est tout à fait bienvenue. Bah, réjouis-toi, voilà, oui, c'est ça. Donc, en grec, c'est terreo. Hein, et c'est pas garder jalousement. C'est pas enfermé, c'est pas thésaurisé, c'est pas enterré, c'est l'utiliser en fait. Vous voyez, garder, c'est en faire bon usage, quoi. Paradoxalement, c'est pas éviter que ça s'abîme parce que c'est quand on n'en fait rien que ça s'abîme, que ça disparaît. Voilà. Du coup, le verset 12, eh bien, on a le pendant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est pas que vous êtes endetté. C'est pas parce que je vous ai aimé que du coup vous êtes obligé d'aimer. Mais c'est quand vous aimez, faites pas semblant. Aimez comme j'ai aimé. Aimez à ma manière. Aimez pas. Il y a plusieurs façons d'aimer dans la langue grecque supportée par le Nouveau Testament. Il y a la philéia qu'on connaît par philos. C'est l'amitié. La philéia, l'amitié, c'est la réciprocité. Tu me fais du bien, je te fais du bien, tu m'appelles, je te rappelle, tu me fais un cadeau, je te fais un cadeau, etc. Vous voyez, ça s'entretient, l'amitié. Puis, si on ne l'entretient pas, bah, ça cesse d'être l'amitié, bon, etc. Donc, il y a une logique de la stabilité. Voilà, c'est... Ensuite, il y a l'éros, connu pour toutes les dimensions érotiques, etc. C'est à la fois aimer ce que l'autre a et qui me fait défaut, c'est à la fois désirer chez l'autre la part qui me manque ou l'objet qui me manque, mais c'est aussi aimer au sens de ce qui met en route. Oui, c'est aussi, on pourrait dire, ce qui est de l'ordre du passionnel. C'est, voilà, c'est l'enthousiasme. Enfin, c'est
posséder.
Alors, c'est ce qui peut conduire à posséder quand il n'y a que de l'éros. Parce que du coup, l'autre peut devenir un objet, l'objet du désir, vous voyez, des choses comme ça. S'il n'y a que de l'éros pur. Et puis l'agapé, dont Dieu est sujet dans les textes du Nouveau Testament, ça serait l'amour au sens du don. Être l'artisan du bonheur de l'autre, c'est faire ce qui est bon pour l'autre, de façon désintéressée. Alors il y a toujours une part qui revient, je veux dire, le bonheur de l'autre, après, partie à mon bonheur, mais la première chose, c'est comment faire pour rendre l'autre heureux, par exemple, ou pour qu'il s'épanouisse. Donc, vous avez toute la longue liste de qualificatifs de l'agapé dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Et au verset 13, là, il va falloir qu'on revienne un petit peu dans le grec aussi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, grosso modo, c'est la logique sacrificielle. On est prêt à mourir pour tout le monde. Le texte dit « donner sa vie » et nous, on dit « mourir ». Ouais, ça, c'est vraiment une transcription. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Et l'amour ici, ce n'est pas l'agapé, c'est la philéia. Et d'ailleurs, la vie, ce n'est pas la vie, c'est la psyché, c'est le psychisme, c'est l'âme. Donc il n'y a pas de plus grand agapé, entendez bien, il n'y a pas de plus grand agapé que de donner son âme pour ceux que l'on apprécie. Non, pas pour ceux qu'on apprécie, pour ses amis, ouais, pour ses amis.
C'est quand même très différent de donner sa vie, de donner son âme.
Bah bien sûr, parce que donner sa vie, c'est un malentendu possible. Donner son âme, c'est, s'engager, c'est s'investir, c'est s'impliquer, c'est.
Le mot grec, précisément.
Psyché. C'est ce qui donne le psychisme. Parce que ça désigne aussi la vie, mais la vie vécue devant Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie simplement biologique, sinon ça serait le bios. C'est la vie humaine, c'est l'exister aussi. C'est la psyché, c'est l'homme avec sa capacité de représentation, d'imagination, sa capacité d'empathie, de pouvoir éprouver ce que l'autre est en train d'endurer, etc. Donc c'est le psychisme, de ce point de vue-là, dit quelque chose de juste. Et l'âme, c'est cette capacité que l'homme a de se tenir debout face à l'autre. On devient une âme dans le regard et dans l'appel de l'autre. Hein, quand Paul Ricoeur dit que la Bible est le livre des réponses, oui, à la condition que ce soit comprendre cette réponse comme le fait que l'homme réponde à un appel. Et du coup, il devient une âme, parce que c'est l'homme responsable. C'est la force intérieure qui fait du bien à l'extérieur. C'est qu'un qui, d'un seul coup, se dirait « Mais bien sûr que je suis le gardien de mon frère. Je suis le terrain de mon frère. Je garde l'amour pour mon frère et je ne lui saute pas au cou parce que je ne sais pas quoi lui dire. »
Donc ce serait mieux de dire « donner son existence » plutôt que « donner sa vie ».
Ouais.
L'existence, c'est plus large.
Oui, c'est vrai. Mais
parce qu'il y a
se consacrer.
C'est-à-dire qu'il y a le verbe titémi, donc c'est poser, donner. Enfin, ça nuit un petit peu à la direction. Sinon, le mieux, ça serait. Il n'y a pas de plus grand amour que de vivre pour ses amis.
Ouais.
Mais peut-être que d'engager sa vie pour ses amis, c'est une traduction qui serait intéressante, peut-être. Vous avez peut-être des idées, mais. Ah d'accord, pour Titémie.
Oui.
Ah d'accord, très bien. Oui. Bah voilà, mettre en gage et engager, je trouve que c'est pas mal. Hein.
C'est même très
bien. Content l'horoscope, plus bien. La phrase suivante est extrêmement intéressante. Donc, 14, vous faites mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc vous voyez, ça fait un peu servile. Ça fait un peu servile là. Bon, on va l'entendre en grec. Vous êtes mes amis si, et là c'est le verbe poiein qui donne la poétique. Donc, si vous agissez, disons, pour nous dire, mais si vous faites de votre vie une poétique, vous voyez ?
On aurait pu, beaucoup plus facilement par rapport à comment comprendre le verset, si vous êtes les serviteurs, si vous faites ce que je vous commande.
Oui,
ça serait logique.
Oui. Mais là, c'est donc les philoi, donc ce sont les amis. Pourquoi ? Parce que les amis, en fait, traduisent en acte. Ils incarnent le commandement donné par Jésus. Commandement au sens de parole, parole du Père qui fait venir au monde et qui permet de durer dans le monde. Donc, la poétique, c'est l'art du discours performatif. C'est tout Genèse 1, en fait. C'est l'acte créateur. C'est la parole qui rend le monde vivable. Donc, vous êtes mes amis en ce sens que lorsque vous prenez la parole, vous rendez le monde vivable, selon mes commandements, selon ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire que quand vous créez votre haine à la face du monde, vous n'êtes pas mes amis. C'est-à-dire quand vous incitez à la violence, etc., c'est pas de moi dont il s'agit. Vous êtes raccroché à un autre cèpe, desséché, etc. Si vous êtes en communion avec moi, alors vous êtes dans le registre de la poétique. La poétique qui est cet art de faire exister.
Ça me semble très abstrait, mais tu as employé le mot enseigner.
Tu veux que je devienne vraiment très concret ?
Non.
D'accord. Parce que si tu veux du sang, tu vas en avoir. C'est clair ?
Par rapport à demander, tu peux employer un autre terme, enseigner. S'il y avait marqué enseigner, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous enseigne, ça nous semblerait tout à fait à l'île du mal, ça, c'est quelque chose qu'on comprend. On accepte. Vous commandez, que je vous commande, on n'a pas le choix, non ? C'est pas l'ordre.
Ouais, mais c'est pas ordonné, c'est commandé. Alors là où c'est bizarre, c'est qu'en fait, ça se raccroche au commandement entolé, comme les 10 commandements, qui est un peu un abus de langage. Mais ordonner, ici, ça ne serait pas faire en sorte que l'autre agisse aveuglément, comme un automate. Au fond, c'est l'étincelle de tout à l'heure. Et là, l'étincelle. Il y a quelque chose qui se déclenche et ensuite ça appartient à l'autre. C'est-à-dire que ça appartient aux disciples, l'art et la manière de traduire cette stimulation de départ. L'ordre, ce que je vous ordonne, c'est le soldat pelouse qui fait là où on lui dit de faire et qui nettoie, qui fait ses travaux d'intérêt généraux tel qu'on lui a dit. Et il n'invente pas une nouvelle manière de faire. Là, il y a une liberté qui est laissée aux philos.
Il faut se lancer.
Non, on est lancé dans la vie. Et au fond, Jésus nous donne les moyens de prolonger cette énergie cinétique.
Vous agissez selon les commandements.
Si, en fait, c'est simple. Dieu nous lance dans la vie. Et comment on fait pour continuer notre trajectoire ? Eh bien, on évite les frottements. C'est-à-dire qu'on est pseudo-isolé grâce à l'Évangile. Ça, c'est un nouveau concept qui vient de sortir aujourd'hui. Le concept de non-frottement. En fond, c'est ça. C'est que la suite du texte dit l'hostilité du monde. Donc, on a des réactions du monde. On a des forces contraires, on a du frottement. Comment ne pas arrêter sa trajectoire ? Il faut supprimer ses réactions, limiter les frottements. Donc, faire en sorte que l'énergie cinétique ne soit pas supprimée. Eh bien, l'amour, c'est ça. L'amour permet cela. Elle permet aussi de réinjecter de l'énergie dans un système qui tend à s'épuiser selon le principe de Carnot, qui est la deuxième loi de thermodynamique. Ça, c'est pratique. Bien, c'est indiscutable.
Rika, c'est pas moi qui vais en discuter. Verset 15, voilà pourquoi je ne peux plus vous appeler serviteur au sens de doulos, donc l'esclave, ce n'est pas le diacre, hein, ce n'est pas le diacre serviteur, c'est le doulos plutôt esclave. Je ne t'appelle plus esclave parce que, justement, l'esclave ne sait pas ce que veut son maître. C'est une obéissance à l'aveugle, conscience débranchée. Eh bien, ici, l'esprit critique reste en éveil. Et le philos, donc l'ami, c'est celui qui sait. Parce qu'on lui a fait connaître, c'est le dernier mot du verset 15, gnorizo, faire connaître.
Le partage.
Oui. Pas de rétention d'informations. Voilà. Ensuite, le verset 16. Intéressant parce que il y a la formule magique. En mon nom. Ento onomati mu. En mon nom. Quand vous ferez quelque chose en mon nom, quand vous demanderez quelque chose en mon nom. Donc, au nom de Jésus-Christ. Là, c'est le sésame chrétien. Tout ce que vous demanderez en mon nom, on vous le donnera. Enfin, ça adviendra. Voilà. Et il y a beaucoup de prières qui se finissent par « au nom de Jésus-Christ ». Alors, ça signifie quoi, ça? Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu dans la tradition juive. Parce que le nom dit, enfin, exprime en fait la personnalité de la personne. Et quand on prononce le nom, du coup, c'est comme si on maîtrisait la personnalité de la personne, comme si on maîtrisait son identité. Donc, le nom a un rapport avec l'identité. On est... Le pape ne dira pas « je m'appelle François », il dira « je suis François ». Le nom, c'est vraiment l'expression de l'identité. Donc, dire « au nom de Jésus », c'est dire que ce que l'on fait, ce que l'on demande, s'inscrit dans la trajectoire de Jésus, on pourrait dire dans la dynamique, dans la perspective de Jésus. Voilà, c'est le kathos de tout à l'heure, c'est le comme. Exemple, aimer, c'est aimer non pas comme le monde est capable d'aimer, c'est-à-dire avec aussi beaucoup de jalousie, de haine, de rancœur, etc., mais à la manière de Jésus. La paix, c'est pas la Pax Romana, c'est pas je fais la sécurité intérieure sur le dos d'un ennemi extérieur. La paix, c'est vraiment l'harmonie entre tous, et non pas avec un bouc émissaire. Donc, la paix au nom de Jésus, c'est la paix telle que Jésus en parle, et non pas telle que mon instinct m'invite à le vivre. Du coup, au nom de Jésus, c'est selon les termes de l'Évangile, selon l'esprit de l'Évangile, selon l'être de Jésus, Christ, c'est-à-dire selon la prédication de Jésus. Est-ce que c'est un peu clair, ça?
C'est le mot de passe.
Eh bien, c'est pas tant un mot de passe qu'une confession de foi, en quelque sorte. C'est la couleur que l'on met à sa demande ou à son action. C'est dire dans quel esprit on agit. C'est quasiment un drapeau, en fait. Ce sont les emblèmes, oui.
N'importe quel.
Ouais. D'ailleurs, beaucoup le font. D'ailleurs, un gourou se reconnaît un peu à ça.
S'il y a une union avec Jésus, donc les choses sont plus faciles.
Ce texte est à mettre en parallèle avec les autres récits de Jésus, où Jésus ne cesse de s'effacer. Et là, en fait, c'est un texte qui s'inscrit dans une série de discours d'adieu où il ne cesse de s'effacer, où il va même dire « Il est heureux pour vous que je m'en aille. » Et ça, ce n'est pas le discours du gourou. Parce que le discours du gourou veut saturer l'imaginaire du disciple pour le rendre complètement dépendant. Jésus va s'efforcer de les rendre complètement indépendants. En fait, Jésus, dans ces textes
du dernier repas fait un travail de sécularisation. La sécularisation au sens où il fait passer les êtres humains du statut d'enfant de Dieu à fils et fille de Dieu. Pour le dire clairement à la voisine de François, c'est le moment où les gens vont pouvoir s'occuper du monde, même si Dieu n'est pas là. Le fils, c'est ça. Le fils est celui qui est capable de reprendre l'entreprise du père, en l'absence du père. Mais oui, c'est un enfant, mais plus au sens de celui qui serait en deçà de la majorité. Il devient majeur au sens qu'ancien du terme. Là, tout de suite. Ça, c'est déjà moins bien. Donc, elle est là, cette sécularisation, et le paraclet dont il est question aussi à la fin, c'est que l'homme serait bien inspiré de se rendre compte qu'il n'est pas seul à être responsable du monde, parce que l'esprit, c'est ce qui nous permet d'être en communication, c'est ce qui nous permet de nous comprendre les uns les autres, et donc de découvrir qu'il y a une co-responsabilité, et que j'entretiens d'autant mieux la création que je le fais avec d'autres, et certainement pas contre les autres. Je regarde ce qui pourrait être intéressant encore. Ouais, le verset 1 du chapitre 16. Il y a l'histoire de ne pas être une occasion de chute. Eh bien, c'est scandalizein. Le scandale, c'est ce qui fait chuter. Quand Jésus dit à Pierre, ôte-toi de mon chemin, espèce de Satan, pour que tu ne sois pas une occasion de chute, pour que tu ne sois pas une occasion de scandale. Scandalizein, c'est grosso modo le caillou qui fait trébucher sur la route. Scandalone. Eh bien, ne pas être un objet de scandale, vous voyez, c'est en quelque sorte l'espoir qui est formulé dans ce texte. Fini pour en faisant le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la foi. La foi donc n'apparaît pas, mais elle est là tout le temps. Pourquoi ? Parce que si la foi, c'est de se sentir vraiment concerné par ces paroles-là, alors la foi, c'est ce qui prend l'amour au sérieux et qui en fait quelque chose d'actif, le fameux poyen. Et du coup, la foi devient l'opposé de la haine. L'opposé de la haine n'est pas tant l'amour que la foi. Parce que la foi, c'est justement, pour reprendre la métaphore de François, le contacteur entre l'énergie électrique et notre moteur. C'est-à-dire que si ça ne se branche pas, notre moteur amour ne peut pas fonctionner et l'énergie divine, disons, ne sert à rien. Grosso modo, le moteur rouille. Ici, c'est le cep qui sèche. Quant à l'énergie, c'est une métaphore. Elle se retrouve devant l'incapacité à produire du fruit. C'est le talent de la parabole qui est enterré et qui sert à rien, quoi. Et c'est en fait ce qui provoque le désespoir, c'est de se dire qu'on a les moyens de s'en sortir et on s'en sort pas parce qu'il n'y a pas la connexion, quoi.
C'est même soi-disant par la foi qu'il y a eu l'inquisition, on a mélangé foi et puissance,
on a mélangé foi et croyance.
Croyance et puissance.
Ou système de conviction, dominique. Disons. Mais oui, bien sûr. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est de se dire que on ne peut pas ne rien faire dans telle situation. La foi, c'est ce Samaritain qui se promène entre Jéricho et Jérusalem qui ne peut pas faire autrement que d'aller secourir cet homme laissé à moitié mort. La foi, c'est de se dire... Ben, j'avais pas pensé pourquoi je suis bénévole dans cette association, mais c'est un bien absolu, cette association. C'est pas parce qu'on m'a fait du bien que je fais du bien à mon tour, c'est parce que c'est du bien absolu de faire ça. La foi, c'est de se dire, ça, c'est du bien absolu. Et du coup, je mets mon réveil le matin pour être sûr d'être à l'heure. Je ne veux pas manquer ça. La foi, c'est, je ne veux pas manquer ça. Je veux en être. Mais ça conduit aussi à des aberrations si on se trompe d'objet de la foi. Parce qu'on peut dire, je ne lâche rien sur un sujet qui n'est pas ultime. Et dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes. Donc, la foi, ce n'est pas simplement cette intensité, c'est aussi le discernement, donc la connaissance. C'est pour cela qu'il y a tout ce passage que je vous ai un peu épargné sur le péché, etc. Mais c'est de pouvoir connaître, le terme connaître, on l'a au chapitre 16, verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est-à-dire que les hommes sont capables de violence parce qu'ils n'ont pas connu le Père ou ils n'ont pas connu le Fils. Quand on connaît, eh bien dans ce cas-là, on est capable d'autre chose. Et donc, il s'agit de faire ce travail de discernement. Donc la foi, c'est à la fois le fait d'être saisi, mais aussi le fait de discerner ce qui est un objet, on pourrait presque dire raisonnable. Oui, aussi. Oui, oui. Mais ça, c'est plutôt l'espérance. L'espérance, c'est... Enfin, oui, la foi, c'est la confiance que l'on a dans les choses que l'on ne voit pas, mais c'est en fait l'espérance qui fait que nous découvrons au bénéfice d'une histoire qui ne va pas s'arrêter là, au prétexte qu'on ne voit pas la suite. Vous voyez, c'est un peu comme s'embarquer sur un bateau. On ne voit pas au-delà de la ligne d'horizon, mais on imagine bien qu'il n'y a pas une chute après cette ligne d'horizon. L'espérance, en fait, c'est ce qui nous permet de prolonger cette confiance, cette foi qui est déjà actif pour le présent, là. Oui. Et c'est donc... Ah si, il y a une place pour le doute. Parce que le doute, c'est justement ce qui permet de vérifier qu'on ne prend pas pour ultime quelque chose qui est juste une idole. C'est-à-dire que dans la logique, il faut toujours réformer sans cesse. C'est, est-ce que je ne serais pas en train de me leurrer, là? Est-ce que je ne serais pas en train de prendre une vessie pour une lanterne, par hasard, vous voyez? Donc, le doute, c'est l'outil par lequel, en permanence, on casse les idoles qui doivent être cassées. Est-ce que je ne suis pas en train de m'agenouiller devant un veau d'or? Oui, oui, mais il y a des moments où les choses ne sont pas toujours évidentes. Et donc, si on n'a pas cette hygiène spirituelle du doute, alors il est possible qu'on s'enferme dans une impasse, par exemple. Et que, vous voyez, on avance avec le front contre un mur sans se rendre compte qu'on fait du surplace.
C'est pour ça que...
Parce que, comme le disait Max Weber, en fait, la cage est invisible. C'est tout le drame.
En fait, Jésus a tout de même été crucifié à la fin.
À la fin? Mais enfin, il se passe des choses après.
Enfin, il a tout de même été crucifié.
Ouais, c'est assez vraisemblable, en effet. Ouais, oui. Et là, la cage était un peu moins de verre. Bon, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à l'occasion.